Vous écoutez France Musique.
Bonsoir Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi, j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue dans Le Parti d'Anjou. Bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir à cette heure absolument idéale pour recueillir les confidences des musiciens dits jeunes. Ou que vous soyez en voiture, en train de dîner, dans un bain chaud ou alors sous la couette, c'est encore mieux. La nuit leur appartient avec le temps devant soi, à un moment justement où ce temps se contracte autour des concerts, des propositions, d'un environnement qui change. Le Parti d'Anjou leur laisse la parole pendant une heure pour littéralement refaire le monde ensemble, en se posant des questions qui ont autant à voir avec la musique qu'avec l'existence elle-même. Ce soir, il y aura un petit accent de Bordeaux dans le studio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir la violoniste Louise Chisson. Bienvenue à elle et bienvenue à vous.
Wonderful, oh it's wonderful to be in love with you. Beautiful, you're so beautiful, you haunt me all day through. Every little breeze seems to whisper Louise, birds in the trees seem to twitter Louise. Each little rose tells me it knows I love you, love you. Every little beat that I feel in my heart seems to repeat what I felt at the start. Each little sigh tells me that I adore you, Louise. Just to see and hear you is joy I never knew. But to be so near you thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder is this. Can it be true someone like you could love me, Louise? Every little breeze.
Bienvenue à vous, Louise Chisson, dans Le Parti d'Anjou. Bonsoir.
Bonsoir, Edouard.
Vous connaissiez cette chanson?
Je connaissais, oui.
C'est
une jolie surprise, merci.
Un souvenir d'enfance?
Pas spécialement. C'est une sorte, un style de musique que j'ai entendu beaucoup. J'ai beaucoup vu de comédies musicales, entendu Maurice Chevalier pas mal de fois. Donc,
à la maison?
À la maison.
À la maison à Bordeaux?
À Bordeaux.
Alors avec un papa qui est saxophoniste?
Tout à fait.
Marc, oui. Chisson, vous habitez aujourd'hui à Vienne?
À Vienne.
Et vous y êtes arrivé à quel âge à Vienne?
À Vienne à 17 ans.
C'est pas un peu tôt ça?
Pour certains oui, pour d'autres non. Je m'en suis bien sortie finalement. Donc ça fait presque 10 ans que je suis là-bas maintenant.
Et vous y avez envie d'y rester?
On verra bien, pour l'instant oui.
Bon, en tout cas, bienvenue à vous, Louise Chisson. On ouvre justement votre partie d'Anjou avec votre papa saxophoniste et un concerto pour saxophone de Glazounov.
Thank you.
C'est votre papa Louise Chisson, ici Marc Chisson, dans ce concerto pour saxophone de Glazounov avec l'Orchestre National de Russie, José Cérébrier. Alors c'est vrai que je vous observais en train d'écouter cette musique et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête ou dans vos oreilles?
Il y a une question souvent quand je dis que mon père est saxophoniste, tout le monde me demande tout de suite, ah il est saxophoniste de jazz puisque le saxophone c'est tout de suite associé au jazz. Et bien qu'il en ait joué, c'est un saxophoniste classique. Voilà. Et il a la particularité de jouer de toute la famille du saxophone, donc n'importe quelle taille. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque le saxophone, c'est la particularité, c'est que ce n'est ni vraiment un cuivre, ni vraiment un bois. Donc c'est un instrument à vent, mais qui est un peu entre les deux. D'ailleurs, qui pencherait plutôt du côté vent, bois, pardon. Et je trouve que la façon dont il arrive à sortir le son est très spéciale. Moi, en grandissant donc avec cet instrument, ça m'a ouvert les portes de ce monde de la musique pour instrument à vent. Donc. Et j'en suis très contente parce que dans la musique, il y a tendance un peu à séparer les catégories. Donc les instrumentistes à cordes restent avec les instrumentistes à cordes, les instrumentistes avant restent avec... Et souvent, on ne connaît pas le répertoire de chacun. Et c'est dommage, parce que c'est source d'inspiration, souvent, pour des idées de son, d'interprétations différentes, et de... Surtout dans la musique française, où les instruments avant sont quand même particulièrement utilisés, je pense que c'est vraiment important d'avoir une idée un peu du répertoire.
Vous comprenez donc ma crainte d'avoir à me maintenir pendant une heure dans une position incommode et feignant l'aisance, puisque tout effort visible manque de style et que notre travail doive toujours effacer notre travail et n'afficher jamais la grimace dénonciatrice des efforts qu'il nous coûte. Vous m'objecterez que cette gêne fut la même pour vous tous. Hélas, je crains qu'elle ne me soit pire. Car je vous avouerai bientôt à quel point je dissimule une maladresse native sous un faux air désinvolte, et que tout ce qui peut être pris chez moi pour une danse n'est qu'un réflexe instinctif, une manière instinctive de rendre moins risible une interminable chute dans les escaliers. Il faudra que j'en use avec franchise et que j'évite de m'endimancher en parole, ce vers quoi nous pousse inconsciemment un lieu historique et l'intimidante allure de notre costume.
C'est étonnant comment, en écoutant votre papa jouer du saxophone, on entend différemment aussi la voix d'Ella Fitzgerald ici dans Mood Indigo. En fait, c'est la première fois que je me dis que Ella Fitzgerald chante comme un saxophone.
C'est original.
Mais avec elle
a un timbre...
cette identité hybride dont vous parliez, Louise Chisson, entre les vents et les bois.
Oui. Elle a... je pense que... Il y a bien sûr d'autres très grands chanteurs, chanteuses de jazz, mais elle reste quand même une des plus grandes, parce que elle a, je crois que son phrasé est un exemple pour tout type de musiciens.
Alors Louis Chisson, vous avez 26 ans, vous jouez du violon.
Je joue du violon.
Alors on va parler un petit peu de votre parcours parce que bah, justement vous avez fait du violon beaucoup aussi très tôt. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on entendait, la voix de Jean Cocteau aussi avant, dans son discours de réception à l'Académie française en 1955, c'est quelque chose qui a été réenregistré, hein, c'est pas le discours le jour où il l'a prononcé. Mais il y a quelques notions qui sont peut-être intéressantes pour nous sur les manières endimanchées en parole, la notion de costume, le fait de se tenir aussi debout pour parler, ce qui n'est pas si éloigné que ça de la position du violoniste. Je ne sais plus qui, dans ce parti dans le jeu, disait qu'ils avaient choisi le violon pour justement jouer debout ou le violoncelle pour jouer assis, parce que finalement jouer debout, c'est quand même fatigant. Sur le hasard, sur la maladresse, sur la notion de chance, de caméléonisme mis en scène. Et Jean Cocteau, c'est quelqu'un qui vous parle. Est-ce qu'en musique classique, à ce niveau d'exigence et de perfection, on peut quand même réussir à préserver cette part maladroite que nous avons en notre fort intérieur tous, mais que nous essayons de dompter ces contraintes acquises dont nous parlions aussi en préparant l'émission?
De monter sur scène et jouer sur scène, il y a cette part, donc bien sûr, de ne pas faire voir au public l'effort, puisque le public est là pour passer un bon moment, et il faut lui faire profiter de la musique sans qu'il se rende compte du travail et de l'effort que cela demande. C'est d'ailleurs la même chose pour les comédiens et pour tous ceux qui montent sur scène. C'est bien sûr difficile, mais je pense que c'est une habitude aussi. Et c'est d'ailleurs une très bonne idée d'avoir mis du jazz après, puisque le jazz, je pense, c'est l'exemple, le meilleur exemple de l'effort invisible. cette spontanéité, cette sensation de liberté, malgré les règles existantes de cette musique aussi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie cette musique, puisque ça représente une aisance et une liberté d'expression pour le musicien et pour le public aussi, que parfois le monde de la musique classique, aussi par les difficultés des pièces, parfois rendent ça difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite tendance à vouloir montrer l'effort aussi.
Venons-en à cette question de de l'image.
Oui.
Parce que c'est vrai que l'effort s'entend, ça peut s'entendre, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins évident.
Oui.
Mais ça se voit. Et cette dimension, je crois, de la torture, une sorte de fétichisme de la montagne à gravir, est rarement mis de côté, ou alors par la grâce féline d'interprètes qui se comptent sur les doigts d'une main, quoi.
Oui, je pense que c'est une mode aussi, un côté sportif du musicien qui parfois peut se justifier en fonction de certaines pièces, peut-être, mais qui en général, je pense, ce n'est pas vraiment la meilleure direction à prendre.
En tout cas, aussi la question du rapport du compositeur au moment où il conçoit son œuvre avec la difficulté elle-même, dont il n'est pas innocent ou innocenté, et l'interprète.
Thank you.
du deuxième concerto de Béla Bartok, Anne-Sophie Mutter, l'Orchestre symphonique de Boston, CJ Ozawa, avec vous, Louise Chisson, dans le Parti d'en jouer. Et c'est vrai que ça, pour vous, c'est un premier choc musical aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, un choc, vous l'avez vu, entendu ou c'est sur un disque?
Non, choc musical en ayant commencé à le travailler.
À le travailler. Voilà.
Donc bien sûr aussi à l'écoute, puisque donc, ce concerto oui, représente la découverte ou la vraie découverte du répertoire du 20e pour violon.
Pour vous?
Voilà. Oui, pour moi. Et ça a été, on peut dire, un coup de foudre. C'est un concerto passionnant, très difficile, et qui représente aussi... mon premier très grand voyage, ouais, parce que j'ai dû le préparer pour aller le jouer à Mexico.
À quel âge? Vous aviez 20 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'était la première fois que je mettais les pieds sur l'autre continent. Et pour mon travail personnel, ça aussi, ça représente un grand pas en avant pour moi, parce que à cause de la complexité de l'œuvre et aussi donc de l'orchestration, puisque je devais le préparer pour jouer avec orchestre. J'ai fait un travail comme jamais avant de préparation, c'est-à-dire que ça m'a vraiment fait faire un pas en avant au point de vue de la compréhension et la préparation d'une pièce aussi complexe.
Surtout que vous arrivez et puis que peut-être que l'orchestre et le chef ne sont pas forcément au niveau, donc du coup vous avez...
Oui, oui, oui.
Ça, y aura des anecdotes à raconter quand même, non?
Oui, c'était
quelques
un peu
petites déconvenues, quoi. Vous attendez un chef qui...
Voilà, c'était un peu difficile avec le chef, puisque comme on peut déjà l'entendre même dans ce court extrait, l'orchestre fourmille derrière. Et donc c'est un concerto qui est difficile à diriger. Il y avait quelques petits problèmes avec le chef qui était un chef de remplacement. Et finalement, on a eu des répétitions supplémentaires, des heures et des heures. Et finalement, il y avait des moments où je dirigeais l'orchestre, moi, pour essayer qu'on arrive à avancer. Et donc, je connais la partition très, très bien maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'est rentré dans la peau, on va dire.
Alors, vous parlez de complexité, Louise Chisson. Alors, depuis Bordeaux, juste à côté de Bordeaux, il y a un petit village qui s'appelle Gradignan. C'est là que Robert Papavrami, donc le papa de Teddy, a ouvert une sorte de... Comment on pourrait l'appeler ? Conservatoire, non, parce que le conservatoire, ça conserve. D'école de musique, c'est pas que ça. De laboratoire, de mise en application... D'une méthode personnalisée, mais qu'il avait repris du conservatoire Tchaïkovski de Moscou. C'est quoi?
Alors,
en fait,
c'était une école de violon, voilà. Donc c'était uniquement pour les violonistes. Et en effet, donc il avait une méthode bien à lui, qui était en partie donc oui inspirée du programme du conservatoire Tchaïkovski à Moscou, en partie parce qu'il avait aussi je dis c'était parce que l'école n'existe plus maintenant. Oui. Un pédagogue génial, je dois dire. Surtout pour les enfants. Il a un don rare pour débuter les enfants. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que pour un instrument comme le violon qui se commence très très tôt, c'est extrêmement important d'être très bien suivi les premières années. Et cette école, c'est une méthode qui, aujourd'hui, ne se voit plus vraiment beaucoup. En France, je pense, enfin à ma connaissance, je ne connais pas de telles écoles. Et il y avait beaucoup d'exigences. La technique, toujours, était importante, surtout au début. Voilà. Et puis après, donc, une fois qu'il y avait une base technique qui était là, après on pouvait se développer musicalement.
Alors on va en parler justement de cet aspect-là, Louis Chisson avec vous, mais c'est vrai qu'il y a un violoniste que vous pourriez nous faire découvrir, parce que c'est vrai qu'il n'est pas si connu que ça, mais pour vous, un très très grand violoniste dont on va parler juste après l'avoir écouté, c'est Ilya Kaler dans le premier concerto de Chimanovski.
Thank you.
Premier concerto pour violon de Szymanowski, l'opus 35, avec l'orchestre philharmonique de Varsovie, Anthony Witt, et surtout ce violoniste, Louis Chisson, Ilia Kaler.
Mm-hmm.
Qui est-il ?
Ilia Kaler, pas très connu, c'est vrai, c'est dommage. C'est, à mon avis, un très très beau violoniste. À l'image de ce concerto, d'ailleurs, je trouve féerique. Ilia Kaler allie, je pense, aujourd'hui... une qualité impeccable et un sens du phrasé aussi, et très sensuel, très touchant. Je dirais que c'est un violoniste noble et musicien noble comme il y en a peu aujourd'hui.
Alors est-ce que cette méthode de Robert Papavrami fortifie autant qu'elle fragilise ? C'est-à-dire qu'une des questions qu'on peut se poser dans l'enseignement musical, c'est que est-ce que vous avez par exemple senti très tôt que vous aviez des facultés ? Pour le violon. Est-ce que vous étiez confiante et consciente aussi de vos moyens ?
C'est une question difficile parce que d'un côté, j'ai commencé tellement tôt.
À 3 ans et demi.
Voilà, que à cet âge-là, on ne se pose pas tellement de questions.
Et à partir de quel âge on a l'impression de s'en poser des questions ?
Pour moi, on va dire en imaginant un futur avec le violon, c'est je me suis posé des questions sérieuses. À l'âge de 12-13 ans. Voilà. Avant ça, c'est une question très simple. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Alors, on travaille, on joue, et ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. C'est un peu la vision de l'enfant.
Donc, vision en deux dimensions.
Voilà.
Et la troisième
dimension. Et la troisième, c'est se projeter et imaginer de faire ça toute notre vie. Et de se poser la question si on a les capacités de faire ça toute notre vie. Si on mérite de faire ça. Et bien sûr que c'est une interrogation qui continue encore aujourd'hui, parfois. C'est normal, on se pose toujours des questions. Mais il y a une part d'intuition aussi. À un moment donné, il faut arrêter de chercher la réponse. C'est juste écouter notre cœur ou notre esprit.
Bon, on parle justement des contraintes acquises. Justement, voilà, l'intuition, ça fait partie des choses qu'on enfouit un tout petit peu, oui. Et retrouver ce sens de l'intuition comme une manière de voir le monde et de l'appréhender, ça rejoint un petit peu ce qu'on va entendre tout de suite. Alors écoutez bien, c'est la seule archive que nous avons de la voix de Henri Bergson, 1937, ça dure 30 secondes, et c'est une grande leçon de vie sur l'art.
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Thank you.
Louise Chisson est avec nous dans le Parti d'Anjou et nous écoutons ensemble avec vous cette page magnifique de l'Intermezzo, le premier, l'opus 117 de Johannes Brahms par entre Dionysos et Apollon. On a l'impression que Wilhelm Kempff ici a résolu cette contradiction en harmonisant ces deux contraires, c'est-à-dire la force de la raison, détachement par rapport au texte, une certaine noblesse, une élégance, et puis la fougue de la passion, du langage intérieur subjectif. Louis Chisson, c'est une musique qui vous accompagne depuis très longtemps, et dans la notion d'accompagnement, je me demande quand même parfois si accompagner, c'est pas protéger. Protéger,
oui,
de l'extérieur.
Je crois que je suis d'accord avec vous. C'est très joliment dit, mais c'est vrai. C'est ce que je ressens en tous les cas. Cette musique m'accompagne et me protège, c'est vrai, quand je l'écoute, oui. Depuis longtemps, et Maître Brahms, que je parfois compare à Bach, parce que je pense que l'art de Brahms est aussi intemporel que l'art de Bach. Son monde harmonique est un océan sans fond, je pense.
Alors justement, vous parliez de cette dimension intemporelle, hein, l'intemporalité chez les compositeurs, même jusqu'à Bruckner par exemple, c'est toujours, ça dépend où on place le curseur, mais cette notion d'intemporalité, elle peut aussi varier, ça peut être une intemporalité qui vous donne l'impression de commencer avant l'instant ou de commencer après que l'instant soit fini, enfin, y a plein de notions là-dessus, mais vous, en termes de temporalité, quand vous vous levez le matin et que vous commencez à jouer, à ouvrir l'étui de votre violon, quel sentiment vous ressentez ? Le sentiment du travail, d'une envie irrépressible de jouer, d'une lassitude parfois, si on devait vraiment être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est, j'imagine que c'est jamais le même sentiment, que ça évolue ?
C'est jamais le même sentiment. Il y a bien sûr des jours où c'est un sentiment de travail, comme vous dites, où on a peut-être moins d'inspiration artistique et il faut juste se mettre à travailler, tout simplement. Et puis, il y a des jours où il y a cette envie, comme si on sentait les cordes sous les doigts déjà, avant même de toucher le violon. Et ça peut avoir à voir avec la pièce qu'on travaille, l'humeur qu'on a.
Vous rêvez parfois de musique, de partition, si vous avez une mémoire photographique, ça vous arrive ?
Oui, ça m'arrive. Les partitions, de toute façon, c'est... Il y a une mémoire visuelle importante parce que, par exemple, quand j'interprète en concert une pièce, très souvent, je visualise la partition dans ma tête. Si j'en rêve, oui, ça m'arrive. Quelquefois, c'est sous forme de cauchemar. Avant un concert, par exemple.
Et comme quoi, par exemple, le
cauchemar assez typique de rêver qu'on... On est à 5 minutes du concert et tout d'un coup, on a tout oublié. Ou il faut jouer un concerto complètement différent de ce qu'on avait prévu. Ce qui est d'ailleurs arrivé à une grande pianiste.
Ouais, jouer au Pirèche. Oui. Oui.
Qui a été admirable et surprenante. Dans son... ouais. Donc, c'est des rêves très humains aussi. Voilà.
La vie de l'artiste qui songe avant tout à la beauté est l'une des plus enviables qui soit. Si même elle nous procure de nombreux déboires et de la part des imbéciles ou des envieux, beaucoup de désagréments. Somme toute, elle nous laisse libres et elle nous permet de nous élever vers l'idéal. D'ailleurs, les propos sans aménité des incompréhensifs ont pour contrepoison l'approbation de ceux qui sont des maîtres. Et je dois avouer qu'à ce sujet, je n'ai jamais eu à me plaindre, car les marques de sympathie et, je dois dire, d'admiration que je tiens de grands artistes tels que Duparc, Fauré, Debussy, Albert Roussel, Maurice Ravel, Darius Milhaud, Florent Schmitt, sont venus compenser, et bien au-delà, ce qu'ont pu écrire tels critiques dont l'outrecuidance n'avait d'égal que l'incompétence. Au demeurant, il y aurait fort à dire sur la qualité de la critique musicale selon qu'elle émane de ceux qui sont des ignorants ou au contraire de ceux qui furent des compositeurs, parfois des maîtres. C'est un lieu commun trop répandu et des plus contestables, celui qui dénie toute valeur à l'opinion des grands musiciens pour n'attacher de prix qu'à celle des musicographes non compositeurs.
Regarde-la ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de tantôt te l'a déjà payé. les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drape pas dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient ou Brest pour les sauver, y a toujours un marin qui ramène son voile. Regarde la taquille à la mer en allée, la marée de tantôt de la tout en jubée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces robes vêtues de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main ça se lit au fond de la mer. C'est pas comme un avril 68, bouchu, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec les étrangers, en Bretagne, y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments.
Léo Ferré, Les étrangers avec le violon d'Ivry Gitlis, hymne à l'amitié en réalité, parce que le marin c'est toujours celui qui vous repêche, mais c'est aussi les étrangers, être étranger à soi, parfois ne pas se reconnaître quand on s'est perdu dans les aléas de la vie. Louis Chisson est avec nous dans votre partie d'Enjoué, vous avez 26 ans, vous jouez du violon. Cette chanson, elle signifie quoi pour vous ?
Déjà en commençant par Léo Ferré, ma mère m'a fait écouter Léo Ferré très tôt. Donc très tôt, c'est vraiment... je devais avoir, je sais pas, 6 ou 7 ans peut-être. Et c'est marrant parce que justement, donc, les étrangers, moi qui suis donc, dans un pays étranger, entouré par des étrangers, qui finalement ne deviennent plus tellement étrangers. Et... Léo Ferré, c'est une musique, c'est des mots, une voix qui, à chaque fois que je l'entends, me tord le ventre. Et en même temps, j'aime l'écouter. C'est très bizarre, c'est difficile à entendre, parce que c'est très fort, vraiment. Et il y a une espèce de tristesse qui, je pense, peut toucher tout le monde, toute vie. Et sa poésie, c'est... Pour reprendre d'ailleurs ce que... On a entendu avant, donc
la voix de Charles
Quesnay. La différence entre l'opinion du critique et l'opinion du musicien ou du compositeur. Et Léo Ferré est un bon exemple parce que je pense que Léo Ferré, excusez-moi, se fichait pas mal de de l'opinion.
Oui, le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Un poète, ça boite toujours un petit peu. Et... Ouais, ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand même la voix de Charles Quesnay, qui est une personnalité qui vous intéresse hein, particulièrement, Louis Chisson, je ne sais pas si en ce moment ou depuis toujours, Mais ce qu'il dit, bon, c'est des petits pics, bien sûr, lancés à la critique, hein, mais il parle de la liberté de l'artiste et aussi quand même de la reconnaissance. Parce que parler des critiques, c'est parler d'une question de reconnaissance, en réalité, et de l'écho que ça peut avoir quand on décide de s'approcher le plus près possible de cette liberté.
Je pense que exactement dans ce texte, par exemple, il veut seulement parler de ce point qui parfois peut être oublié, que un critique finalement aura toujours une part d'ignorance, parce que le compositeur ou l'interprète saura toujours un petit détail de plus, parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Et parfois c'est oublié. C'est pour ça qu'il parle de l'avis du musicien. Et à propos de son point de vue, à propos de la musique, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait une... C'est pour ça qu'il m'intéresse d'ailleurs, qui avait une vue sur la musique classique qui est rare, je trouve, qui s'est perdue peut-être ou qui n'a jamais vraiment existé. C'est un point de vue universel de la musique, donc qui ne s'arrête pas vraiment à la musique classique. Et c'est une musique, comme d'ailleurs il a travaillé sur la musique et l'humanisme, donc c'est une musique qui touche à tout. Voilà. Et je pense que c'est un point de vue très intéressant.
C'est votre professeur à Vienne,
oui.
Louis Chisson, Dora Schwarzberg, qu'on entend ici dans un petit arrangement d'Oblivion de Piazzolla par Jorge Andrés Bosso. Alors Dora Schwarzberg, en quelques mots, vous l'avez rencontrée assez tôt, à 18 ans
Je l'ai rencontrée, je suis partie à Vienne pour travailler
pour
avec
travailler
elle.
Avec
voilà.
Elle.
Donc je l'avais rencontrée au préalable lors d'un stage, et elle m'a prise dans sa classe et je suis partie. Donc.
Et école russe.
Voilà, tout à fait. Ce qui ne m'a pas trop changé, puisque j'avais quand même eu un avant-goût. Et donc oui, à Vienne, Autriche, où j'ai découvert donc la culture russe. Dora, c'est quelqu'un de très, c'est un personnage très particulier. C'est quelqu'un qui, je pense, est né avec le violon dans les mains et finira sa vie avec le violon dans les mains. Ce petit morceau là qu'on entend, c'est un assez bon exemple de son expression extrêmement généreuse, générosité qu'elle intègre dans sa classe et dans son travail avec ses élèves, classe qui devient finalement une sorte de famille. Et elle, qui n'est pas vraiment un professeur au sens traditionnel du terme, mais plutôt une sorte de musicienne, grande musicienne bohème, qui devient un guide musical pour ses élèves.
Vous parlez de famille, justement, Louis Chisson. Ça a à voir avec ce qu'on va entendre, un petit extrait de La Chatte sur un toit brûlant. De La Chatte sur un toit brûlant, le film de Richard Brooks avec Paul Newman marié à Elizabeth Taylor. On parlait de famille musicale, et ben musicable, c'est le couple Maggie et Brick. Et quand même une réflexion avec vous, Louise Chisson, sur comment les choses se font et comment les choses se défont. La force de la construction et puis la force de la fragilité aussi. Et de se tromper sur soi. On écoutait Léo Ferré, Les Étrangers, de ne pas se reconnaître. Parfois, est-ce que la musique, justement, de ce point de vue-là, ça aide à savoir qui on est, vraiment?
Parfois, ça n'aide pas. Je dirais, ça aide parfois à se trouver ou se retrouver, à découvrir d'autres mondes qu'on ne connaissait pas en soi. De là, à se connaître vraiment, je sais pas.
Et cette pièce de Tennessee Williams, importante pour vous?
Tennessee Williams, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ses descriptions de l'humain et des relations humaines et différentes situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Et bien sûr, le cinéma qui est ma petite bulle ou ma grande bulle.
Et à 14 ans, vous avez même hésité.
À part la musique, oui. J'ai pensé à faire des études de réalisation. J'ai suivi mon intuition et continué, bien sûr, avec la musique et le violon. Et je pense que c'était le bon choix. Mais le cinéma m'accompagne toujours et reste quelque chose de très, très important dans ma vie de tous les jours.
Alors, un grand merci à vous, Louis Chisson. On va se quitter avec un extrait de votre disque que vous avez fait paraître chez Gramola avec Tamora Adjuba dans une sonate, une des trois sonates que vous avez enregistrées. Il y a celle de Yalacek, de Prokofiev, et puis la sonate de Poulenc, composée en pleine Seconde Guerre mondiale et créée, je trouve que c'est intéressant, le jour de l'arrestation de Jean Moulin.
Oui, et créée par Ginette Neveu, et dont justement, quelques années plus tard, quand la catastrophe, donc, et que l'avion est tombé, et que Poulenc a en fait changé la fin de la sonate. Et je pense que c'est pas une version officielle, mais je pense qu'on entend quand même une référence à cette tragédie.
Alors, un grand merci. C'est cette fin qu'on va justement écouter. Louise Chisson, on vous a entendu parler. Maintenant, vous prenez le violon, et c'est la magie de la radio. Un grand, grand merci à vous.
Oui. Merci, merci.
C'est vous, Louise Chisson et Tamara Hadjba, dans le dernier mouvement de la sonate de Francis Poulenc pour violon, extrait de votre dernier disque paru chez Gramola. Un grand merci à vous, Éric Lancien, à réaliser cette émission. Jean-René Bonissant m'a aidé à la préparer, avec aujourd'hui à la prise de son et au mixage Éric Boisset. Et pour les recherches, Alina, Marthe, Laurent, Clotilde, un grand merci à eux quatre. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. On se retrouve la semaine prochaine. Mais pour l'heure, bientôt 22h sur France Musique, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau, comme si vous y étiez. Bonsoir, Jérémy.